France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Oxmo Puccino, poétiseur de son état.
Premier épisode, la lune à sa hauteur. Bonjour Oxmo Puccino.
Bonjour.
Poétiseur, ça c'est un mot que vous aimez beaucoup.
Oui.
Poétiseur qui dit bien ce que vous êtes, même si en termes plus français, on va dire, vous êtes auteur, compositeur, interprète, on pourrait ajouter écrivain, poète, conteur. Un artiste majeur du rap français depuis 30 ans en cette année 2026 et une référence pour de nombreuses générations. En ce sens, on pourrait presque dire que vous êtes un pionnier devenu un tonton. On vous doit quelques classiques. L'enfant seul, Mama Lova, J'ai mal au mic, Toucher l'horizon, 365 jours, je pourrais en citer d'autres. Hein. En 10 albums, dont 8 solos, sur lesquels vous ciselez les mots, transformez les rimes en images et les chansons en récits, révélant par ce fait votre attachement au verbe, à la musicalité du texte et peut-être à une narration inspirée aussi bien de la vie que de la littérature et du cinéma. Longtemps, vous avez été classé parmi les grandes plumes du rap, mais vous n'avez cessé de déplacer son centre de gravité. En témoignent vos collaborations avec de très nombreux artistes, tous plus prestigieux les uns que les autres, de MC Solar à Mathieu Chédid, de Fatoumata Diawara à Vincent Segal, de Gaël Faye à Orelsan, de Vanessa Paradis à Turi. Ce faisant, vous avez décloisonné le genre, vous avez contribué peut-être à faire du rap la musique la plus populaire qu'elle est devenue. Écouté et célébré aussi bien dans les cités qu'à France Culture, aussi bien par les vingtenaires que par les cinquantenaires. Alors comme votre dernier album solo, Oxmo Puccino, est sorti en octobre 2025, c'est peut-être l'occasion, au moment où vous tournez la page, de faire un premier bilan de ce demi-siècle que vous avez traversé, en chantant un rap qui a toujours été de toute façon libéré, des carcans, des clichés, et peut-être même aussi du culte de la réussite, même si vous avez parfaitement réussi vous-même. Ça fait quoi, Oxmo Puccino, d'être une figure historique à 51 ans ?
Ça remplit de gratitude. De gratitude, et ça fait savoir qu'on a immensément de chance. Immensément de chance au rapport de ce qui n'était pas prévu. Donc, de toutes ces surprises, de ces rencontres que j'avais jamais projetées, d'avoir autant voyagé, c'est vraiment un privilège d'avoir vécu ça. Et de le vivre, de le vivre.
Encore au quotidien.
Et c'est ça, c'est ce qui est extraordinaire.
Donc, gratitude, c'est le premier mot qui vous vient.
C'est le premier mot qui me vient. J'adore répéter sur scène, c'est que ce soir, je vais beaucoup vous remercier pour le moment, pour le passé et pour le futur.
Vous, vous remerciez le public, mais de fait, le public vous remercie aussi, peut-être aussi parce que je disais que vous avez réconcilié, alors aussi bien des générations qui sont parfois en tension, en conflit, que des milieux, que des genres musicaux. Est-ce que vous êtes conscient ? Parce que vous dites souvent que vous chantez pour réparer. Oui. Je pense au droit de chanter, oui. Qui est un titre que vous avez écrit, bien sûr. Et vous écrivez « Guérir les âmes, c'est mon ambition ».
Oui.
Donc, est-ce que vous êtes conscient que vous avez su réconcilier l'amour des mots avec ce qu'on appelle, disons, la culture légitime, et je mets mille guillemets, avec une culture urbaine, une culture populaire ? Et que ce faisant, c'est un travail, effectivement, de réconciliation ou de réparation en général ?
Ça me renvoie à ces grands moments que je vis, qui me surprennent toujours parce que j'ai un rapport très particulier avec ce qu'on appelle la notoriété, qui fait que pendant longtemps, lorsque je terminais un projet, que je disparaissais des radars, je pensais que j'avais disparu.
Qu'on vous oublierait.
Oui. À chaque projet, jusqu'à il y a 2 ou 3 albums. Et donc, cette phrase que j'entends souvent lorsque je rencontre des personnes qui me suivent, qui dit « Ah, vous devez avoir l'habitude », elle est totalement à l'inverse de ce qu'ils peuvent penser. Parce qu'à chaque fois que je rencontre les plus personnes de mon public volontaire, impliqué, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est un rappel formidable. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont quelqu'un d'autre, que chaque personne a son importance et que ce n'est pas l'addition de ce qu'on pourrait appeler vulgairement des compliments, mais qui sont beaucoup plus profonds que ça, qui en amoindrit la teneur, la valeur. Et donc à chaque fois que quelqu'un vient me voir, me fait part de la manière dont mon travail l'a touché, en finissant par, vous devez avoir l'habitude, ben, ça me rappelle que c'est incroyable ce que je vis.
C'est fou parce que vous avez commencé en répondant à la première question en disant c'était pas prévu. Là, vous venez de dire, j'ai l'impression qu'à chaque fois on allait m'oublier. Comme si vous viviez avec un sentiment d'illégitimité au fond.
Non, c'est pas un sentiment d'illégitimité parce que j'ai mis beaucoup de moi, j'ai énormément travaillé pour présenter, pour proposer. Et donc, à chaque fois, c'est un retour de ce travail, de cette réflexion, de cette introspection perpétuelle. Et le fait que ça résonne dans la personne qui vient me faire part de son émotion me rappelle que j'ai été juste à certains moments. Et ça me touche parce que j'ai l'ambition de faire de la musique pour réparer. Et à chaque fois, ça m'offre une personne qui a profité des bienfaits des résonances de ce que j'ai réussi à résoudre.
Dans cette reconnaissance, Oxmo Puccino, il y a aussi le fait que c'est votre génération qui a permis à des artistes des années 2020 d'être considérés comme ils le sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux.
Oui, oui, oui. Mais ça, c'est une part d'histoire. En avoir été témoin me rend tellement heureux parce que j'ai vu l'histoire. Je suis l'homme qui a vu l'homme. Et sachant que tout le monde n'est pas au fait des origines, de ce qui s'est passé, de l'histoire, du pourquoi, du comment, j'accepte d'être dans une page qui est fermée, mais qui a contribué énormément à ce qui se passe aujourd'hui, et en être conscient. Et ainsi, pouvoir faire honneur à tous les artistes de ma génération, dont beaucoup ne sont plus là aujourd'hui.
Souvent d'ailleurs, on dit que vous êtes une sorte de trait d'union, je trouve ça un peu bizarre, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, entre le rap et la chanson. Parce que le rap, c'est pas toujours de la chanson ?
Le rap, c'est toujours de la chanson, et ce trait d'union est dû à des archétypes bien ancrés de l'idée qu'on se fait du rappeur, entre guillemets. Parce que très vite, j'ai tenté de m'extirper de ça, forcément par la proposition, par les sujets que j'abordais, qui n'étaient pas tellement usités à l'époque, et ça n'a pas suffi, parce que les archétypes étaient très très solides. Et j'ai fait fi de ça pour aller vers les personnes qui allaient se reconnaître, en dehors de tout cliché, de toute œillère.
Vous l'avez chanté d'ailleurs. Le droit de chanter,
beaucoup fait ça, oui.
C'est un peu un manifeste qui vaut pour vous comme pour le rap.
Oui, tout à fait.
Oui, on a le droit de chanter. Oui, moi j'ai le droit de chanter.
Exactement. Et oui, on est des chanteurs aussi. Et vous vous trompez sur la définition que vous créez du rappeur.
Est-ce que vous êtes à part dans ce domaine-là ?
Ah, j'en suis convaincu. Je l'ai toujours été. Et c'est ce qui m'amuse, c'est que j'ai été à la fois à part et en même temps incontestable. Ce qui fait que ça peut provoquer des débats qui, pour moi, font l'animation, qui prouvent que j'existe encore. Je le vois comme ça.
Quel genre de débat ?
C'est pas un rappeur, c'est un rappeur. C'est un gars de quartier, c'est un bobo, c'est un intello. C'est, enfin, toutes les descriptions qu'on peut avoir, qui, pour moi, ne sont pas négatives du tout, mais qui peuvent créer la confusion.
Et vous essayez de clarifier ?
Non, j'ai arrêté il y a quelques années. Parce que lorsque je me retrouve sur scène devant mon public, ça efface tous les débats. C'est l'essence de la raison pour laquelle je suis là. Pour cette rencontre ultime entre celui qui a trouvé, celui qui a capté ce texte, qui a autant touché. Ça devient métaphysique. Ça devient métaphysique. Je mets donc des réflexions profondes qui sont issues de tracas, de problèmes, d'épreuves, d'obstacles, de moments de vie qui sont souvent assez compliqués, que tout le monde traverse. Et lorsque il y a ce partage, cette petite lumière entre celui qui a proposé et celui qui a reçu, et que ça s'est passé de la manière la plus mémorable qui soit, et que ça touche à l'existence commune de deux êtres, les histoires de couleurs, de t-shirts, de vitesse, de son, d'identité, tout ça n'a rien à voir. Parce que pour moi, à ce moment-là, le moment que je décrivais un peu plus tôt, c'est des humains face à face, d'âme à âme, sans artifice, sans inutilité. C'est pur.
Vous avez toujours été à l'aise avec la scène, avec le public, avec la rencontre avec le public ?
Non,
ou c'est
pas
au
du tout.
Fur et à mesure des années ?
Pas du tout, parce que La rencontre avec le public est arrivée bien plus tard, parce que j'ai commencé la musique à une époque où elle n'était qu'audible. Les clips sont arrivés avec, Bad, ou Thriller de Michael Jackson, donc dans les années 80. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à accoler l'artiste à une image. Donc moi, j'ai commencé la musique moins de 20 ans après ces événements audiovisuels, ces phénomènes audiovisuels. Et j'ai toujours fait la part des choses entre l'image et le texte, parce que pour moi, des artistes, des écrivains, des auteurs qui avaient traversé les siècles sans qu'on ait aucune idée de leur visage, prouvaient que l'essentiel n'était pas là. Mais la loi du marché faisant, il a fallu que je m'adapte. Et donc, d'une époque où la musique n'était qu'audible, où les concerts étaient impensables, parce qu'il n'y avait pas d'espace scénique pour les rappeurs, on se contentait de faire des chansons et d'envoyer les bouteilles à la mer. Et lorsque je me suis rendu compte, enfin avec mon équipe, avec qui je travaille depuis cette époque, nous nous sommes rendus compte que nous ne voulions pas dépendre des médias, de la presse, de la télé, d'une radio ou deux. Il fallait qu'on aille chercher le public. Et donc en 2003, à l'époque du Cactus de Sibérie, qui était mon album de reprise, de retour, après avoir échappé à l'envie d'arrêter la musique définitivement, nous nous sommes retrouvés sur scène. En 2003, et à partir de là, j'ai été chercher le public, ville par ville, village par village, festival par festival, bar par bar, pour les convaincre qu'on avait quelque chose de bien à partager. Et le temps a fait qu'aujourd'hui, j'ai des flowers, des fleurs, j'appelle comme ça, qui sont devenus des amis, et qui à l'époque étaient des adolescents, et qui aujourd'hui viennent avec leurs trois enfants, leurs femmes, leurs cousins... C'est un bout d'histoire que nous partageons. J'ai appris à aimer, aller à la rencontre de ce public. Et ça, c'est arrivé avec les concerts. Des centaines de concerts. Donc la rencontre au début, c'était un peu étrange parce que, encore je vais le dire, c'était vraiment pas dans les prérogatives. Donc ce n'était qu'accidentel, plein de maladresse, à prendre la scène en même temps. Il a fallu des années. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir côtoyé des artistes légendairement scéniques comme Mathieu Chédid, Cyril Atef, Vincent Segal, rencontrer des personnages comme Paco Seri, Tiziane Seck, et j'en passe. Mais eux tous m'ont apporté quelque chose que je ramène sur scène devant mon public. À cette époque où le semblant de contact est numérique, se pouvoir se toucher, pouvoir se parler en vrai, est devenu pour moi l'ultime aboutissement de la rencontre.
Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, parce que nous venons vous rencontrer en vrai, pour une vraie conversation, vous et moi,
et ça donne un moment
avec
à la hauteur.
Les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Et vous avez dit, on est mieux chez soi. Ben, ça tombe bien, parce qu'on n'est pas chez vous, mais un peu chez vous, puisqu'on est dans votre bureau, dans le 20e arrondissement de Paris.
Oui.
C'est quoi ce lieu ?
Alors, c'est un lieu... que ma productrice, tata, manageuse, Nicole Schluss, avait acquis il y a longtemps. C'est un endroit lumineux qui me rappelle un peu les débuts. Donc c'est un retour dans un endroit qu'on a beaucoup aimé, après une expérience, après des voyages. Et c'est un peu comme un retour à la maison, donc je me sens vraiment chez moi ici.
Il y a un bureau avec un ordinateur et des enceintes. On sent que vous pouvez peut-être faire des essais aussi,
oui.
Il y a des guitares.
Si, si.
Derrière moi et devant vous, Oxmo Puccino, des disques, des livres, des photos, des images, des habits aussi, rangés comme on peut, des dossiers, des archives. Voilà,
c'est toute une vie.
C'est toute une vie. Et vous parlez d'un retour à la maison. Il se trouve qu'en octobre 2025, vous avez sorti ce que vous avez annoncé être votre ultime album.
Oui.
C'est le dernier, au plein sens du terme, La Hauteur de la Lune. Évidemment, on vous a entendu en parler comme étant le dernier album, mais pas le dernier geste musical. Bien entendu, vous allez continuer la musique, mais on se dit quand même que c'est tôt, à 51 ans, d'arrêter de faire des albums. C'est un choix évidemment mûrement réfléchi, mais qu'est-ce qui a présidé à cette décision ?
Beaucoup de choses. Tout d'abord, je me suis toujours appuyé sur mes aînés, pour avoir une sorte de repère j'ai toujours cru à cette espèce de phrase, ce mantra, qui dit chaque chose en son temps. Et j'ai toujours cru à ça parce que nous n'avons pas une vie à échéance illimitée. Et donc, chaque époque de vie correspond à un mouvement, à une épreuve qui vague dans un seul sens. Et de tous les artistes que j'ai appréciés, je me suis rendu compte qu'il y avait un moment de leur vie où ce qu'ils avaient fait de meilleur ou ce qu'ils avaient fait de plus fort était derrière eux. Et que peu importe ce qu'ils pouvaient faire après, ça ne sera jamais à la hauteur de ce qui a fait leur histoire, parce que ça correspond à une concordance qui arrive très peu dans la vie. C'est-à-dire que dans le temps pour tout, je sais que tous les moments ne sont pas les meilleurs pour pouvoir travailler, pour proposer, pour commencer un projet, parce que c'est une question d'alignement d'étoiles, de vibrations, de sensations. Et peu importe les signaux, j'ai toujours avancé. Tous les projets ne vont pas marcher comme on l'espérait, malgré ce qu'on a pu mettre en termes d'implication, de moyens, d'obstacles franchis. Et ce qui fait que ce ne sont pas tous les projets qui vont être entendus, aimés à la valeur qu'on l'aurait souhaité. Et les projets qui ont fait mon histoire étaient allaient tomber dans ces espèces de concordances d'alignement d'étoiles, de moments de vie, de propos, de contexte social, de contexte politique. Ce ne sont pas des moments qui arrivent souvent dans la vie. Et mes derniers projets ont été assez compliqués en termes de réception, en termes de production, de réalisation, attirer moins l'attention que les autres. J'ai accepté que j'ai peut-être fait mon temps et que peu importe que je fasse la Joconde ou un tableau de Caravage après, le moment où je brillais le plus, c'était derrière moi. Et j'ai toujours voulu éviter ces projets qu'on n'écoutera plus, certains avant même de l'avoir écouté, qu'il ne vaudra pas les raisons pour lesquelles on l'a aimé. Parce que justement, cette concordance n'est plus là. Et le fait que je n'ai plus 20 ans aujourd'hui joue, confirme ce sentiment. Alors, c'est-à-dire qu'on peut pas être un nouvel artiste à 50 ans. On peut pas être un nouvel artiste à 50 ans. C'est extrêmement compliqué, surtout quand on l'a déjà été. Et j'embrasse et j'accepte ce moment de vie. Je n'aime pas insister. Je n'aime pas ça. Et j'ai beaucoup d'attrait pour l'élégance. Et pour moi, l'élégance en fait partie, de savoir se retirer au bon moment.
C'est un joli mot, l'élégance, qui pourrait d'ailleurs s'adapter à cet album que, pour un au revoir, j'ai trouvé particulièrement joyeux, plein d'entrain. J'irais même jusqu'à dire léger. Évidemment, léger,
oui,
c'est le titre de la dernière chanson.
Oui.
Vous l'avez voulu comme ça?
Mais c'est pour ça que je parle de privilège, de gratitude, parce que j'aurais pu terminer sur un album qui n'attire pas l'attention, un projet dégonflé, dont on parle avec politesse, mais sans beaucoup d'attention. Et je sais qu'un projet comme La Hauteur de la Lune aura un retentissement que ne connaîtra pas le providentiel prochain projet. Parce que ce n'est pas la concordance des énergies, de l'attente d'un public, de ce que j'ai pu proposer, de ce qu'on attend de moi aussi. Voilà, c'est un peu tout ça. Et donc le succès que rencontre ce projet est une chance qui ne va pas se réitérer ad vitam aeternam. Donc je suis encore plus heureux que ça se termine comme ça. Ça s'est terminé sur une victoire.
Oxmo Puccino, une fois n'est pas coutume, d'habitude dans les séries à voix nue, nous commençons par le début.
Oui.
Voilà, c'est vrai que j'avais eu envie de commencer cette série par la fin, par ce dernier album, mais peut-être parce que cet album est aussi un condensé de votre art. D'abord, vous revisitez le rap pur et poétique qui a fait votre renommée, en reprenant aussi les détours par le jazz qu'on a connu sur l'Hippopotame Bar, cet album enregistré avec le quintet de Jazz Bastards et paru chez Blue Note en 2006. La chanson pop, la chanson titre La Hauteur de la Lune est interprétée en duo avec Vanessa Paradis. Est-ce que vous l'avez aussi conçu comme l'acmé de votre carrière?
Oui, Oui, totalement. Je me rappelle encore du plan artistique que nous avions mis en place avec mon équipe en 2023, c'est-à-dire tout au début de l'album, et j'ai pris plaisir à l'envoyer à une amie qui chante aussi, parce que nous avions rempli toutes les cases que nous avions dessinées pour avoir l'album idéal. Et l'album est parfaitement synchro avec ce que nous avions prévu.
Équilibré.
Totalement. D'où ma joie. Parce que je voulais terminer un peu comme j'ai commencé et fermer la boucle d'une manière harmonieuse avec une espèce de condensé, oui, de toute ma carrière, mais de la façon dont on l'aurait voulu. C'est-à-dire que j'ai essayé de me mettre à la place de ceux qui me suivent depuis longtemps et d'imaginer l'album qu'ils auraient apprécié. Et c'est la première fois que je fais un disque totalement pour mon public.
Et c'est aussi pour cette raison que j'ai souhaité commencer par cet album, puisque pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, il peut y en avoir parmi nos auditeurs et nos auditrices, il rassemble cet album un peu tout, vous l'avez dit. Il rassemble, c'est vraiment une synthèse et une rétrospective musicale, mais aussi bien sur la forme que sur le fond, j'ai envie de dire.
Parce que
sur le fond, il est beaucoup question d'amour.
Bon, oui.
Toute votre vie, Osmo Puccino, dans vos chansons, il a été question d'amour, du manque d'amour, du trop d'amour, d'amour de soi. Il y a les meilleurs, Ne pas m'aimer avec MC Solar, La hauteur de la lune, Cosmos. Je vais citer quelques vers.
Merci.
Un demi-siècle de colère en train de s'effacer. Avec le temps d'être moi-même, je m'échappe souvent. Je fais tout pour m'aimer. Un lion dans un couvent, dans lequel je tisse des métaphores dictées par la vie qu'on vous a promis après la mort.
Merci.
C'est presque un disque aussi d'apaisement, enfin, ou tous les cas de paix avec vous-même et avec ce qui vous entoure.
C'est ce que je voulais laisser comme première impression. Lorsqu'on écoute les premiers projets, qui n'étaient pas dénués d'amour, mais empreints de colère, écouter ce projet fait rendre compte du chemin parcouru, du voyage et des possibilités d'évolution. Que, malgré tout, la vie peut être très belle. Que c'est une question de choix et de chemin.
Il y a aussi les histoires, puisque vous êtes un raconteur d'histoires, le poétiseur, c'est ça aussi, hein, celui qui raconte les histoires. Faut que je te raconte. Glock, qui sont des titres de ce dernier album, ce sont de pures histoires.
Merci. Rien ne peut mieux se transmettre qu'une histoire. On peut faire passer tout avec un peu d'humour. Lorsqu'on raconte une histoire, il n'y a pas de frontières. Pour moi, on raconte toujours la même histoire. Il n'y a que la personne qui diffère, le contexte et l'époque. Mais nous racontons souvent les mêmes histoires. Et ce qui en fait la portée, sa résonance. Sa résonance dans la vie de l'auditeur. Et pour moi, c'est un jeu. Dans le sens où il s'agit de faire passer une idée tout en tenant en haleine jusqu'au dernier mot. Et lorsque je perçois un sourire sur le visage de celui qui a pris plaisir à comprendre et découvrir l'histoire, je me dis que l'objectif a été atteint. Pour moi, c'est la performance. C'est comme un concours de fléchettes. Ça me pousse à recommencer avec plaisir dès que possible. Il faut que je te raconte, c'est une double performance parce que c'est inspiré d'un morceau de, pour moi, un des plus grands rappeurs de tous les temps qui s'appelle Notorious B.I.G., qui était pour moi un des plus grands narrateurs aussi. C'est le premier qui m'a fait penser à Chester Himes. Il avait cette histoire qui s'appelle A Gallows Story to Tell et que j'ai choisi de réadapter. Je parle de double performance parce que pour moi, réadapter une chanson qui a déjà existé, qui a déjà frappé, la proposer dans une autre langue, dans une autre culture, avec le même impact, permet d'agrandir l'univers de cette chanson, de ce qu'elle transmet, de ce qu'elle véhicule. Ça la rend universelle. Je pense à ce morceau de Seu George. De Seu George, carrément. C'est même pas de Seu George. Ça s'appelle Zedo Caroso, qui est une chanson que j'ai écouté des milliers de fois, tant et tellement que je l'ai réadapté en français. Ça m'a pris 3 ou 4 mois parce que je voulais qu'elle corresponde profondément au sentiment aux émotions qu'elle fait exploser en moi. La raison pour laquelle j'ai écouté des milliers de fois. Jusqu'à ce que je découvre que la version originale n'était pas de Seu Jorge. Et je l'ai écoutée et elle m'a beaucoup moins touché que celle de Seu Jorge. C'est ce que j'espérais faire avec ce morceau, faut que je te raconte, qui sort d'un projet que je m'étais donné, que j'ai jamais réalisé, de réadapter tous les morceaux qui m'avaient touché dans le rap américain, que les non-anglophones n'auraient jamais connu de leur vie. Et Glock est un morceau qui résonne avec un interlude de mon premier album qui s'appelle « Peu de gens savent » et qui faisait état de la violence qui était devenue quotidienne pour moi. Et les réactions à l'écoute de ce morceau à l'époque étaient toutes dubitatives. Elle allait même jusqu'à me demander si c'était de la fiction. Et 30 ans plus tard, au vu de la place de la violence dans notre société, je me suis dit qu'il fallait que j'en reparle, mais sans redondance, sans lassitude. Et la seule manière que j'ai trouvée est de reprendre les éternelles coupures de journaux que l'on peut lire, les chroniques de 5 minutes au journal télévisé qui parlent de jeunes qui se sont tués 30 ans plus tard. Donc la seule manière que j'ai trouvé de pouvoir toucher, c'est de raconter cette histoire qui, hélas, est devenue commune et qui se répète chaque année.
Oxpo Puccino, c'est bien pour cette raison que cet album est une bonne entrée en matière dans votre univers, pour la raison aussi musicale, j'ai envie de dire, parce que on y entend l'ouverture que vous avez toujours eue pour les genres musicaux différents du rap, pour le sortir de son carcan. Là, c'est la rencontre entre le hip-hop et la variété avec Vanessa Paradis, mais il y a aussi Josman, il y a MC Solar, il y a Turi sur cet album, donc on voit vraiment la diversité, la variété. Il y a peut-être quelque chose un peu nouveau par rapport à ce à quoi vous nous avez habitués, c'est la longueur des chansons. Elles sont un peu plus courtes, est-ce que je me trompe ?
Pas du tout, et ça a même été, hélas, quelque chose qui a été pris en compte. Parce que si j'arrête de produire des albums, c'est aussi parce que l'auditeur n'a plus le temps. L'auditeur n'a plus le temps pour lui-même.
Donc vous avez tenu compte de cette évolution pour écrire vos chansons et écrire des chansons avec l'envie d'être écouté jusqu'au bout.
Oui, c'est pour ça. C'est-à-dire que cette attention qu'on ne se donne plus me force à réduire la taille des morceaux pour qu'ils soient écoutés jusqu'au bout. Donc ça m'arrange quelque part parce que ça me permet de garder le meilleur et surtout de créer une espèce de frustration qui, dans le meilleur des cas, vous fait remettre le morceau. Donc il y a du bon aussi.
Bon alors nous, comme on est à Oxmo Puccino dans une série qui dure 2h30, on va faire en sorte que nos auditeurs et nos auditrices nous écoutent jusqu'au bout. On va se retrouver pour l'épisode 2. Maintenant, en ayant cette petite base pour commencer, on va essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu? À suivre l'épisode 2, Un gars de Paname. À demain.
À demain.
C'était À voix nue avec Oxmo Puccino, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Florent Layani. Un grand merci à Léa Varin pour son aide. Chargée de programme À voix nue, Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.